En ce dimanche des rameaux, nous accueillons aujourd'hui le père Didier Ascouette pour son livre « Petites et belles histoires de la vie d'un prêtre » aux éditions Résiac. Bonjour mon père.
Bonjour France et bonjour à tous nos auditeurs.
Oui, bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore. Je recevais il y a quelques semaines Émeric Janson qui a commis un truculent livre sur la vie, sur une vie fictive mais pas si éloignée de la vie d'un prêtre. Nous abordions la solitude qui pouvait être ressentie par vous-même et vos confrères, mais dans un esprit de don comme le présentait Saint Jean-Paul II. Aujourd'hui, nous allons parler de ces histoires belles qui m'ont touchée, qui m'ont fait rire, qui vraiment m'ont beaucoup plu. Merci beaucoup pour ce livre, mon père. Alors, sourions. Vous êtes prêtre ordonné dans le diocèse de Versailles, puis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon. Oui. Riche en complémentarité. Et oui. Puis, aumônier dans différents lieux. Maintenant, vous accompagnez les pèlerinages en Terre Sainte aussi pour l'agence Ictus Voyages. Avant de parler de votre livre, mon père, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience d'aumônier, d'aumônial tout d'abord, puis de prisonnier et de malade? Parce que c'est un, comment dirais-je, on ne sait pas, nous, les fidèles de paroisse, très bien comment un prêtre vit ça.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre question parce que, de fait, on me la pose assez souvent.
Oui.
J'ai eu la chance, je suis prêtre depuis 41 ans et j'ai eu la chance de vivre des ministères extrêmement différents.
Oui.
Donc, vicaire en paroisse à Versailles, ensuite curé de paroisse à Bormes et à la Seyne-sur-Mer, ensuite aumônier de prison, aumônier de Monial.
Aumônier de scout.
Oui. Ensuite, maintenant, je suis depuis 10 ans aumônier d'un centre de rééducation fonctionnelle. Ailleurs, donc l'hôpital Léon Bérard, qui traite des situations assez difficiles, puisqu'il est spécialisé dans le traitement des grands brûlés.
Oui.
Mais nous avons aussi des accidentés de la route, malheureusement, des jeunes. Et nous avons aussi des cardiaques et des AVC. Donc c'est un immense privilège, c'est que, en accord avec la direction de l'hôpital et l'évêché, j'habite à l'hôpital.
Ah oui, donc vous êtes au plus près des malades.
Et voilà, on m'appelle, j'arrive, je connais tout le monde, donc c'est quand même une grande grâce. Et je me suis rendu compte d'une chose, d'une évidence, par rapport à tous ces ministères que l'Église m'a confiés par l'autorité, c'est que je me suis aperçu d'une chose, on a une certaine crainte quand on vous dit du jour au lendemain, vous serez aumônier de prison, moi c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout et tout. Et je me suis rendu compte d'une chose, et que je résume en une phrase, c'est que Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. Et ça, je l'ai éprouvé vraiment dans mon cœur et dans ma chair. Évidemment, vous n'êtes pas seul. Vous êtes formé par des personnes qui vous accompagnent. Notamment, j'ai énormément de respect pour l'administration pénitentiaire parce que pendant 8 ans, j'ai trouvé des gens plein d'humanité. Et je me suis rendu compte de ça, vous voyez. Dieu ne choisit pas des gens capables. Mais il rend capable ceux qu'il choisit. Il leur donne la grâce pour accomplir ce ministère. Bon, si ça marche pas, ça marche pas, on arrête. Mais je me suis rendu compte de ça, on n'est pas seul. On est formé, il faut se laisser former, mais c'est une. Ça m'a paru être une évidence qui s'est imposée comme ça très vite dans tous les ministères si différents qu'on a pu me confier.
Est-ce que Dieu est perçu de la même manière par les prisonniers et les malades?
Il y a énormément. Ça peut paraître curieux, mais il y a énormément de liens entre l'hospitalisation et l'incarcération.
Oui, parce que dans les deux cas, on est dépendant.
On est privé de liberté. Mmh. Et puis, il y a une constante aussi, c'est que les heures sont très longues.
Ah oui.
Surtout la nuit. Et en plus, si vous souffrez. Donc, moi, j'ai vu en détention, je ne restais pas la nuit en prison, je n'avais pas le droit. Mais les heures sont très longues. Et les témoignages de détenus me disaient, mais c'est bruyant. C'est un univers d'une très grande violence. Je rends hommage au personnel de l'administration pénitentiaire. Ils n'ont pas un travail évident, parce que c'est un lieu de très grande tension.
Alors, vous parlez de temps. C'est pour ça que je pense que vous racontez dans votre livre que les prisonniers demandent des calendriers.
Ah oui.
Oui.
Oui, oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Le temps n'a pas la même le temps n'a pas la même valeur en détention et à l'extérieur. Il y a aussi autre chose dont je me suis rendu compte, la détention est parfois plus dure pour les familles à l'extérieur de la prison que pour les détenus.
C'est ce que j'ai lu dans votre livre.
Ouais,
Pourquoi?
c'est curieux. Très curieux. La famille ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez? C'est un univers tellement... on a vraiment... C'est pas Prison Break, quoi. On a du mal à imaginer ce qui se passe. Eux viennent, les familles viennent au parloir, mais ils savent pas les conditions de la détention.
Oui.
Et encore, moi, j'étais dans une prison à la Sarlette, qui est une prison récente. Donc, propre... il y a vraiment... mais les familles ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur des murs.
Alors, toujours pour parler du temps, vous dites que vous avez eu le droit d'avoir des préparations au baptême plus courtes.
Oui, alors ça, en accord avec l'évêque.
Oui.
Et ça, là, moi, je lance un appel parce que, bon, je me rebelle parfois sur le formatage un peu dans l'Église.
J'ai
Parce
vu
que...
ça dans votre livre, mais vous avez raison. Il faut faire
Mais en
bouger les
fait,
choses parfois.
Écoutez, j'espère que les gens vont rire autant en lisant mon livre que j'ai ri en l'écrivant. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Le temps, c'est ce que je vous disais, n'a pas la même valeur en détention. À l'hôpital non plus. Donc, je vois l'évêque et je dis, non sans un certain humour, parce que j'avais des détenus qui avaient demandé le baptême. Je dis,
Oui.
mais monseigneur, moi je vais réduire le temps de préparation. En plus, ils sont incarcérés, je suis sûr de les revoir après le baptême.
Pour le suivi, c'est parfait.
Et là, et c'est marrant, vous voyez, on parlait des coïncidences entre l'hôpital et la prison, mais je vis la même chose ici à l'hôpital, parce qu'en fait, comme j'y suis tous les jours, je connais tout le monde, et je marie des infirmières, je baptise des enfants, et puis là, depuis 3 ans, j'ai des demandes de baptême d'adultes.
Oui.
Mais c'est ce que je leur ai expliqué, de soignants, hein. Donc je leur ai expliqué, mais attendez, on se voit tous les jours.
Oui.
Je vais réduire votre temps de préparation à 1 an. J'en ai parlé à l'autorité, l'autorité m'a dit oui. Et en plus, je suis sûr de
Formidable.
les voir après, elles travaillent ici. Donc en fait, on a eu la chance avec mon équipe d'aumônerie, on a eu 6 baptêmes de soignants l'année dernière, on en a 7 cette année. Donc, et en plus, si vous voulez, elles ont mon numéro de téléphone, donc si à un moment, elles ont une question, ben, elles m'appellent, on prend un café ensemble, et puis... Et donc, on va pas les décourager, parce que malheureusement, parfois, on met la barre tellement haut qu'on décourage les gens. Or, j'insiste beaucoup là-dessus dans l'Église. On n'est pas là pour faire rentrer les gens dans les cases, on est là pour accompagner des libertés.
Oui.
Oui.
Alors, mon père, on va commencer par le livre. Pour ne pas décourager certaines mères qui désirent plus que tout voir leur fils devenir prêtre et qui se désespèrent, hein. Comme je disais, c'était pas gagné pour vous au début parce que vous séchiez même les cours de caté.
Non, c'est pas sécher les cours de caté, c'est que j'ai été mis dehors.
Oui,
par
enfin.
Le jeune prêtre.
Et donc, vous, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, vous traîniez dehors, faisant croire à vos parents que vous n'y
voilà.
étiez pas.
En fait, le problème, c'est que je le dis en vérité, je ne sais pas ce que j'ai dit à ce jeune prêtre, mais je l'ai poussé à bout. Et il m'a mis dehors, et en fait, c'est le premier chapitre du livre, parce que j'appelle ça l'humour de Dieu.
Oui.
Parce que j'ai traîné dans les rues, et un jour, évidemment, c'est arrivé, mon père m'avait passé en voiture, il m'a reconnu, crise de larmes et tout. Ils essaient de négocier auprès du prêtre, niet, ils voulaient rien entendre, donc j'avais dû le chauffer à blanc quand même. Et donc j'ai pu intégrer un autre groupe et finalement faire ma profession de foi.
Oui.
Et ce qui est trop drôle, c'est que 15 ans plus tard, je me retrouve à être ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Et dans la sacristie, à la fin de la cérémonie, les prêtres viennent pour accueillir les nouveaux, on était 2, et arrive devant moi le prêtre qui m'a mis dehors 15 ans auparavant, quoi. Et il me dit, mais on ne s'est pas déjà vu quelque part. Je dis oui, mais pas longtemps, quoi. Donc, et vous rendez compte, le nom de Dieu, il m'a mis dehors, je suis devenu son frère dans le sacerdoce, quoi.
Oui.
Et ça, c'est beau. Je trouve ça magnifique. C'est pour ça que ce livre, il y a de belles aventures. Bon, il y a aussi toutes les âneries que j'ai pu faire. Alors, j'ai dû sélectionner, sinon ça ferait un livre de 300 pages.
Oui.
Mais j'ai beaucoup insisté sur le côté humanité du prêtre. Ça me semble tellement évident. Il faut que les gens le comprennent.
Oui.
Nos faiblesses, Dieu les transforme comme dans le cœur de tout être. Et on a beau faire des âneries, parfois ça devient des sources de grâce, quoi. C'est impressionnant. Enfin, moi, dans ma vie, j'ai réalisé ça plus d'une fois. Et c'est ce côté humain qui me semble très important de faire percevoir au lecteur.
Alors, il y a une chose qui est quand même extrêmement surnaturelle. c'est cette histoire de valise chapelle. C'est absolument incroyable. Alors en plus, là, elle est par étapes. Au début, on se dit non, c'est pas possible. Après, c'est pas. Racontez-nous ça, c'est quand même incroyable.
Non, si ça vous embête pas, franchement, je préfère que les gens le découvrent.
Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on ne racontera pas, mais celle-là, quand même. Vous voulez pas nous la raconter parce que elle est quand même incroyable.
Ben oui, elle est longue quand même, hein.
Elle est longue, mais il ne faut pas tout dire. Ne dévoilez pas tout, mais donnez envie à nos auditeurs de vouloir en savoir davantage.
J'avais une mission en Bretagne et j'avais ma valise chapelle dans mon coffre avec mes ornements. Et puis ensuite, je faisais un mariage en Vendée. Ensuite, je rejoignais un camp scout à côté de Clermont-Ferrand. Et sur la route, je me suis dit, mince, ma valise chapelle. Et en fait, j'avais oublié en Bretagne. Mmh. Donc, je ne pouvais pas faire demi-tour. Et quand je suis arrivé au camp scout, j'ai été reçu par deux sœurs d'un certain âge, hein, et qui m'ont accueilli très, très chaleureusement et qui m'ont dit, mais on savait qu'un prêtre venait, donc on a prévu tous les environs, qu'il y aurait la messe qui serait célébrée. C'est là que j'aurais dit, j'ai tout oublié, quoi. J'ai mes ornements, mais j'ai rien, mais si vous avez du pain ou un toast, je peux le faire.
Alors non, vous expliquez que exceptionnellement, ou effectivement, on peut prendre du pain. Si on n'a pas.
Ça m'est arrivé dans des situations où il faut rester discret. Notamment, je me souviens dans une prison à la frontière cambodgienne où il y avait des Vietnamiens qui avaient demandé à communier. J'ai dit la messe sur une table avec un toast et un verre de Porto. Le gardien n'a rien compris, quoi. J'avais pas d'ornement. Mais oui, mais vaut mieux, là, dans ces cas-là, vaut mieux être discret. Et là, donc, les deux personnes âgées, là, qui étaient dans ce château, m'ont dit, mais par contre, on voudrait vous montrer quelque chose. Et là, elles m'ont emmené dans la forêt, il y avait une petite maison, et quand je suis rentré dans la maison, il y avait du lierre partout et tout, et puis elles m'ont montré un dessus de cheminée. Et puis elles me disent, on n'ose pas y entrer, il y a une boîte là, à côté du dessus de cheminée. La boîte, c'est une vieille boîte d'ovo maltine. Et quand je l'ai ouverte, il y avait des hosties dans un état impeccable, quoi. Et le dessus de cheminée, c'était un hôtel.
Et il y a d'autres choses extraordinaires à découvrir dans cette histoire. Alors, mon père, vous avez été curé d'une paroisse qui s'appelle Saint-Trophime. Mais qui était Saint-Trophime ?
Oh, ça, je suis nul. Parce
qu'on n'a jamais entendu... Enfin, c'est pas un nom...
Alors, je sais qu'il y a un Trophime qui a été évêque d'Arles, mais je crois que c'est pas celui-là.
Alors, moi, j'avais fait des petites recherches. J'avais vu qu'effectivement, il y avait, depuis le synode d'Arles, une église en Provence, hein, qui avait assimilé ce disciple à Saint-Paul. Mais on n'a pas grand-chose. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Fêté le 28 novembre, j'ai vu. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup d'églises Saint-Trophime quand même. Vous avez baptisé des petits Trophimes ?
Non, jamais.
Oui. Et alors, à Saint-Trophime, vous aviez un fidèle très connu, mais auparavant, nous allons faire une petite pause, si vous le voulez bien.
D'accord.
Merci.
Oui, oui.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, qui est ce fidèle très connu ?
Mais en fait, sur le territoire de la paroisse de Saint-Trophime, c'est la commune de Bormes-les-Mimosas.
Et oui.
Il y a le fort de Brégançon, qui est la résidence d'été des présidents de la République, quoi.
Oui.
Et le général de Gaulle est venu une fois.
Oui.
Mais le lit était trop petit, donc il a passé qu'une nuit.
Oui.
Et c'est ce qu'on m'a raconté. Et ensuite, plus aucun président ne venait. Et puis, alors, surprise, moi, quand je suis arrivé en 95, c'était le premier mandat de Jacques Chirac. Il est arrivé à la messe avec son épouse.
Oui.
À l'époque, les présidents de la République venaient à la messe.
Et oui.
Petite pique. Donc, d'ailleurs, on en avait souvent parlé parce que j'ai eu la chance de déjeuner avec lui et son épouse. Et justement, il y avait un litige, c'était sur le fait de marquer les racines chrétiennes dans le préambule de la Constitution.
Et oui, que lui a refusé.
Mais oui, et là, moi, là, je coinçais, quoi. Et
là,
donc, en plus, ironie du sort. C'est que le traité de Lisbonne, ensuite, que les Français ont rejeté, mais que Nicolas Sarkozy a fait adopter au forceps avec le Congrès, le traité de Lisbonne, l'ironie du sort, c'est qu'il a été signé au Portugal dans un monastère désaffecté.
Ah, ça, je ne le savais pas.
C'est drôle. C'est drôle. J'ai vu le reportage parce que Tony Blair était arrivé en retard. Et il montrait, c'était magnifique, le monastère est désaffecté, mais il y avait des éclairages à l'intérieur, c'est splendide. Mais vous vous rendez compte,
c'est lunaire. Oui.
C'est dingue, quoi. Et donc, on en avait parlé et tout, mais bon, ce qui était quand même vraiment extra avec Jacques Chirac, c'est que il aime les gens.
Oui. Et c'était ça, un bon vivant.
Ouais. Et mais surtout, moi, ce que je raconte, c'est qu'il passait beaucoup de temps. Il restait après la messe avec les gens.
Ah,
et
oui.
Puis je raconte cette anecdote parce que ça m'a profondément touché. Un jour, j'ai un copain qui a eu malheureusement un accident de voiture. Il s'est retrouvé tétraplégique et il me dit « Est-ce que tu penses que je pourrais avoir une entrevue avec le président à l'issue de la messe ?» Je lui dis « Je vais t'arranger ça, on va voir. » Parce qu'il voulait sensibiliser le président au fait qu'on a
handicap.
Du mal. Par exemple, quand vous êtes sur une chaise et qu'il y avait les distributeurs automatiques de billets à l'extérieur des banques à l'époque, vous n'arrivez pas au clavier si vous êtes sur une chaise. Donc, alors, Jacques Chirac arrive avec son épouse et je lui dis « Écoutez, monsieur le président, j'ai un copain là qui est sur une chaise. Je voudrais vous dire un mot à la fin de la messe. » Il me dit « Pas de problème. » Et tout, bon. Et la messe se termine. Il va vers mon copain. Et là, il fait un geste que j'ai trouvé extra. Il se baisse.
Ah, vous voulez dire qu'il se met à la hauteur de votre
voilà.
ami.
Ce qu'on fait, nous, à l'hôpital. Vous voyez, quand on rentre dans une chambre, vous ne regardez pas le malade de haut.
D'accord.
Vous vous mettez sur une chaise. Mmh. Vous voyez. Et ben là, il l'a fait. Et c'était pas calculé. Il n'y avait pas de caméra. Donc, j'interdisais les caméras de rentrer dans l'église.
Mmh.
Et là, j'ai vu un geste d'une profonde humanité, quoi. Il aimait les gens. Et ça, ça les bouleversait, les gens. Parce que vous étiez seul au monde, hein, quand il vous serrait la main. C'était vraiment... Et puis alors, on riait beaucoup. Parce que c'est un bon vivant. Et c'est vrai qu'on avait... On avait des occasions de rire. Et puis la messe se terminait toujours par un temps de convivialité.
Oui.
À l'extérieur, j'avais des jeunes qui offraient les petites tartines en choyade avec un verre de rosé.
Et oui, c'est ce que vous expliquez, ça, oui, dans votre livre. Ouais.
Ouais. Mais c'était une très belle expérience. Et puis bon, ben honnêtement, pour la commune, c'était génial, quoi. Puis moi, ça me ramenait du monde à la messe, quoi. Donc je vais pas me plaindre. Hein.
Oui, du reste, vous faites une réflexion assez amusante en. C'était pour la nuit de Noël où vous dites, ben, écoutez, revenez plus souvent. C'est vrai que votre église devait vivre irrégulièrement, je dirais.
Oui.
Mmh. Ah, oui. Mon père, vous avez rencontré le père Daucher aussi.
Mathieu.
Oui.
Alors, Mathieu, c'est
très touchant.
C'est une belle histoire parce que c'est mon ancien évêque qui me dit, écoute, il y a un prêtre, il a besoin d'un coup de main, il voudrait que je lui envoie quelqu'un. Alors, est-ce que tu peux le rencontrer ? Et moi, j'allais, en fait, pour une autre raison aux Philippines, j'allais pour soutenir des jeunes bénévoles de l'association Les Enfants du Mékong,
oui.
à laquelle j'appartiens. Et donc, j'allais les soutenir là-bas, et bah, je lui dis à mon évêque, mon ancien évêque, je lui dis, bah, ça tombe bien, je vais aux Philippines, donc je vais en profiter, je vais parler le père Mathieu. Mais le nom ne me disait rien. Et en fait, c'est vrai que je suis arrivé là-bas, j'ai pris un tuk-tuk là, pour aller dans son... Il recueille des enfants dans les rues de Manille la nuit.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut préciser pour les auditeurs. C'est un prêtre français qui est parti à Manille et qui recueille les enfants des rues, qui souffrent, qui sont prostitués par leur famille.
Voilà.
Vraiment, oui.
Et alors, en fait, moi, j'avais un emploi du temps assez chargé parce qu'à l'époque, étant aumônier de prison, puisque l'aumônier de prison est nommé par le garde des Sceaux, et en fait, il fait partie de l'administration pénitentiaire. Et donc, j'avais la possibilité de rentrer dans les prisons à l'étranger. Et donc, j'ai pu aller plusieurs fois dans les prisons de Manille. Et là, donc, j'avais un credo, je fonce à la communauté du Père Mathieu. J'arrive, je vois tous ces bénévoles, tous les enfants qui étaient là. Et je vois son visage, et là, il me regarde, il me dit « Ça fait 25 ans que j'attends ce moment. » Je dis « Attends, on se connaît ?» Et il me dit, oui, il y a 25 ans, vous avez béni ma promesse de louveteau à Versailles.
Oui.
Et là, je lui dis, bah, c'est à moi maintenant de me mettre à genoux, c'est à vous de me bénir. Mm. Alors, un silence de cathédrale, je me suis mis à genoux et il m'a béni. Et c'est un type, un prêtre de feu, quoi, extraordinaire. Je l'ai suivi. Justement, on est allé en prison ensemble, dans une prison de Manille.
Oui.
Et puis, je l'ai suivi dans les bidonvilles. Qui sont sur le port de Manille, à la Smoky Mountain aussi, la montagne fumante où les gosses récupèrent des trucs à manger.
Ouais,
que même un bouc ne voudrait pas dévorer. Donc, Et non, c'est un prêtre de feu, mais j'ai trouvé le petit clin d'œil quand même assez extraordinaire, quoi. C'est que on se connaissait depuis longtemps, depuis cette veillée de promesses de Louveteau. Quoi.
Ouais.
C'est quand même le Seigneur, c'est bien les choses.
Entre le prêtre qui a demandé votre bénédiction le jour de votre ordination et le père Mathieu Daucher, effectivement, on voit comment tout est lié. Mon père, j'ai une question à vous poser. Vous disiez que vous aviez sept demandes de baptême ou sept baptêmes cette année ?
Oui.
Alors donc, ça veut dire qu'en prison, à l'hôpital, comme à l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui se passe ?
Ah oui.
Ça veut donc dire que la vie est la même, sans être la même, bien évidemment.
Oui. En fait, je vous disais, bon, les heures sont longues, et en prison, et à l'hôpital.
Ouais.
Et dans les deux cas, entre guillemets, surtout ici, je suis à l'hôpital Léon Bérard, je suis dans un cadre absolument splendide. Là, je suis en train de vous parler, je contemple la presqu'île de Gien et toutes les îles d'or. Là. Et en fait, les heures sont longues, et donc c'est un moment de retraite. Et quand votre vie bascule, par un délit en prison ou par un accident ou la maladie, quand votre vie bascule, ben, vous vous dites, attends, qu'est-ce qui est important dans la vie, quoi? Et c'est là que souvent, en écoutant les gens, les personnes hospitalisées ou les détenus, ils vident un peu leur sac. Et je leur dis, surtout à l'hôpital, n'hésitez pas, on n'est pas là pour vous juger. Encore une fois, on est là pour vous accompagner. Et ça les libère quelque part. Et là, je pense que le Seigneur frappe à la porte de leur cœur. Moi, j'ai vu des détenus pleurer, hein, parce qu'ils se rendaient compte à un moment que, bon, ben, ils avaient vraiment fait une. Mais j'ai toujours été très très prudent avec les détenus parce que j'aimais bien cette phrase du pape François qui disait leur faute aurait pu être les miennes. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'amour d'un père et d'une mère, pas eux. Quand un gosse est frappé et dort sous la cage d'escalier toutes les nuits, comment voulez-vous qu'il ne devienne pas violent ?
Oui, bien sûr.
Donc, je n'excuse pas, hein, mais il faut essayer de comprendre le contexte d'un certain nombre de choses.
Oui. Parce que c'est amusant, à un moment, il y a un prisonnier qui dit que vous êtes en prison depuis plus longtemps que lui.
Oui.
Est-ce que vous les voyez une fois sortis ? Est-ce que vous les accompagnez ? Est-ce qu'ils ont besoin d'une béquille ? Ah bon ?
Non. Alors là, l'administration pénitentiaire est très claire.
Oui.
Et le ministère de la Justice aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes pressenti pour être aumônier de prison,
oui.
Alors il y a une enquête de gendarmerie sur vous. Mais évidemment, il ne faut pas avoir de casier judiciaire.
Il ne faut pas avoir fait trop d'excès de vitesse.
Exactement. Mais on n'a pas un casier pour excès de vitesse, hein,
oui.
Donc ça va.
Vous êtes sauvé.
Mais en fait, donc il y a une enquête, sur vous, il y a une formation, et c'est surtout du droit, quoi. Et c'est pour ça que je vous disais au début de l'entrevue que finalement, heureusement que j'ai été formé par les surveillants.
Mais ils pourraient être tentés de vous recontacter quand même.
Alors, quand j'en croise un dans la rue.
Oui.
Surtout s'il est accompagné, je lui dis bonjour, mais de loin. Parce que si, par exemple, il est avec une petite copine, elle ne sait pas forcément qu'il a fait de la prison.
Ah, oui, oui. Ah ben oui,
donc, je suis obligé de faire attention. Je n'ai pas le droit de les prendre en stop.
Oui.
Parce que si je les conduis à un endroit et qu'ils font un braquage, je suis considéré comme complice.
Oui, d'accord.
Donc, il faut faire attention.
Très méfiant.
Et je pense que l'administration pénitentiaire a raison. Une fois qu'on est parti, on est parti. Un jour, je voulais aider un ancien détenu et on m'a dit tout de suite, attends Didier, t'es à l'intérieur, t'es pas à l'extérieur, laisse-nous faire. Ouais. Donc, mais il m'arrive d'en croiser dans la rue à Toulon. Mais là, je reste très très prudent, je les salue. J'en ai même eu qui ont été hospitalisés ici.
Ah oui,
et qui
d'accord.
M'ont reconnu. Ben oui, ils m'ont reconnu.
Ouais.
Mais je reste... alors là, c'est dans un autre cadre. Hein, donc, mais je reste quand même assez distant. Parce que il y a des aumôniers dans le passé qui ont pu se faire avoir et donc qui tombent sous le coup d'une complicité. Si jamais ils gardent des liens avec des anciens détenus et que l'ancien détenu en question n'a pas perdu ses bonnes habitudes de braquage ou de. Vous voyez, ben oui, bon. Donc il faut être prudent.
Oui. Mais écoutez, mon père, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
J'invite vraiment nos auditeurs à offrir ce petit livre bien sympathique. qui, à mon avis, peut plaire aussi comment dirais-je, aux catéchumènes, parce qu'on voit vraiment l'Église sous un, enfin, la vie d'un prêtre sous un autre regard. Parce voilà. qu'on a tendance à oublier que nous, ben, vous êtes comme nous. Et ben oui. Voilà, Petites et belles histoires de la vie d'un prêtre par le père Didier Asquette aux éditions Résiac. Merci beaucoup, mon père. Et
merci
puis, eh bien, écoutez, on est bien en communion de prière avec vous parce que écoute, vous accompagnez ces malades et ces détenus et on sait que voilà, vous avez besoin de nos prières. Donc,
Vous accompagne. Et vos auditeurs peuvent compter sur les miennes, surtout en cette semaine sainte.
Merci beaucoup, mon père. À très bientôt.
Merci, au revoir, mon père. Au revoir.
Au revoir, mon père.